La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre semaine spéciale en vue de la préparation du bac de français. Un bac de français qui arrive à grands pas puisqu'il débute le 15 juin prochain. Il reste donc moins d'un mois aux lycéens de première pour s'y préparer et nous les y aidons depuis le début de la semaine. Ici à France Culture, que ce soit dans les émissions d'histoire, de philosophie ou de sciences, comme dans la compagnie des auteurs. Lundi, nous avons travaillé sur la poésie, hier sur le théâtre, demain nous nous pencherons sur le texte argumentatif et aujourd'hui... Aujourd'hui, nous parlons de ce qui est peut-être devenu le genre roi en français, c'est-à-dire le roman. Nous le faisons comme d'habitude avec un écrivain, un prof et des élèves de lycée. L'écrivain aujourd'hui, c'est une jeune romancière qui a passé son bac il n'y a pas si longtemps que cela. Elle a seulement 27 ans. Agrégée de lettres modernes, elle poursuit en ce moment sa thèse sur Francis Ponge et son deuxième roman, Le roman d'Esther, vient de paraître aux éditions Flammarion. Le professeur, c'est Elisabeth Rastoin. Elle enseigne au lycée Jeanne d'Arc de Colombes. Et les élèves, eh bien, c'est sa classe de première S. Merci à eux d'être là. Aujourd'hui au programme Le Roman donc, et en particulier cette question, le roman doit-il donner l'illusion du réel ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale de la Compagnie des auteurs.
On peut dire que le récit du 19e siècle, le grand roman de cette grande époque, s'organise en général autour d'un plein. Je ne parle pas de Flaubert, hein, parce que chez lui, chez Flaubert aussi, les creux, les vides ont une grande importance. Mais chez Balzac et chez Zola, il y a du plein. Et le roman donne du plein. La première phrase du roman constitue un monde de plénitude qui se développe peu à peu, et le livre apparaît comme ayant une espèce de noyau central dur et plein, qui est en général un personnage, le destin d'un personnage. Une des caractéristiques de la littérature moderne sont justement les organisations d'un récit autour d'un manque, autour d'un vide. Et ça me paraît très net pour mes trois premiers romans en particulier, mais je pourrais le dire aussi de nombreux autres romans contemporains.
Une archive d'Alain Robbe-Grillet, dont un extrait des Gommes faisait partie du corpus de textes sur lequel ont travaillé les lycéens du bac 2008 en section L et sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui. Un corpus qui regroupait également La vie de Marianne de Marivaux, L'immortalité de Kundera et Les âmes grises de Philippe Claudel. Bonjour Pauline Flepp.
Bonjour.
Alors pour vous, le bac de français, c'est encore assez proche. Quels souvenirs vous en avez ?
Pas si proche que ça. Quels souvenirs ? Bah, des souvenirs assez lointains. Je me souviens que moi, ce qui m'angoissait le plus, c'était l'épreuve orale, en fait. Parce que je trouve qu'on est assez peu préparé à l'oral.
On en parlera plus particulièrement dans l'émission de demain, dans la seconde
D'accord.
partie.
Alors,
J'espère que vous l'écouterez.
Oui, bien sûr. J'avais la chance d'avoir une professeure de français vraiment extraordinaire, donc qui nous avait beaucoup amené au théâtre. Voilà, donc on se limitait pas à une étude des textes entre guillemets scolaires. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plutôt bien réussi mon bac de français.
Vous avez eu une bonne note ?
Oui, à l'écrit, oui, à l'oral, moyenne.
Donc vous êtes écrivaine. Est-ce que au moment du bac, vous preniez le récit d'invention ?
En fait, j'avais un problème avec le récit d'invention. C'est que, en fait, il y a deux types de sujets d'invention. Il y a des sujets argumentatifs et des sujets où vraiment on peut continuer des textes. Voilà. Du coup, je pense à une phrase de Soler sur Francis Ponge qui disait que la meilleure façon justement de montrer qu'on aurait compris ses textes, ça serait le pastiche. Et je suis assez d'accord, je trouve que le récit d'invention, qui est souvent critiqué, c'est un exercice en fait extrêmement intelligent, puisque être capable d'écrire à la manière d'un auteur, c'est la meilleure preuve qu'on a compris en fait.
Elisabeth Rastoin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur cette idée que le récit d'invention et le pastiche, c'est le meilleur exercice ?
Alors, je pense qu'effectivement, il faut avoir une imagination bien affûtée. Et c'est d'ailleurs un sujet auquel quelquefois on se frotte en se disant bah, je vais pouvoir m'appuyer sur mes propres ressources, alors qu'il faut quand même véritablement s'approprier les textes du corpus pour pouvoir rebondir dans le cadre du sujet la plupart du temps.
Donc c'est quand même quelque chose qui est assez contraint d'une certaine façon.
Oui, c'est très contraint, c'est pas très facile. Et une fois encore, il faut vraiment avoir s'être immergé pleinement dans les textes du corpus.
Alors, tout à l'heure, on entendra justement un récit d'invention sur Rob Grillet. C'est Pierre et Camille qui en ont préparé un. Mais avant cela, Pauline Fleb, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que l'école, le français, les cours de français permet quand on veut devenir écrivain. Est-ce qu'il y a un lien entre les cours et votre vocation littéraire?
Ouh, vaste question. Mais en tout cas, je suis assez frappée de voir que beaucoup d'écrivains et de romanciers n'étaient pas forcément des excellents élèves. Enfin, j'ai écouté votre émission là, de lundi avec Jean-Michel Maulpois, qui disait que c'était un élève en fait assez moyen. Moi-même, j'étais pas une excellente élève hein, au lycée. Enfin, j'étais forte en français, mais et encore. Donc. Bah après, je pense qu'évidemment, pour être romancier, il faut avoir beaucoup lu. Enfin, souvent, ça va de pair. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas être trop scolaire, à mon avis. Donc,
Et on devient trop scolaire quand on suit trop les conseils donnés par les professeurs?
C'est possible, c'est pas systématique. Ça dépend du professeur, en fait. Il faut avoir un professeur pas trop scolaire.
Non, mais c'est un vrai défi hein, de faire le lien entre l'école et, entre guillemets, la vie réelle, ce qui se passe, et s'y préparer. Et on s'y emploie. Je pense qu'on est dans une période où on y réfléchit vraiment, de faire grandir nos jeunes en véritable adéquation avec le monde qui les attend. Donc être vraiment, si je puis dire, connecté.
Alors on va dire un peu bonjour aussi à tous les élèves qui sont là. Il y en a beaucoup dans le public, mais il y en a aussi autour de cette table. Antoine, Thibault, Zoé, Camille et Pierre. Est-ce que vous connaissiez, je vais commencer avec toi Antoine, les textes de ce corpus-là? Est-ce que vous connaissez les auteurs? Et est-ce qu'on a besoin de connaître finalement les auteurs pour bien comprendre comment réussir l'exercice en français, Antoine?
Alors moi personnellement je ne connaissais aucun des textes, je connaissais juste Alain Rob Grillet, comme ça de vue, qu'on a déjà vu avec une citation à travers notre cours. Mais ça ne m'a pas gêné personnellement dans la compréhension de son texte, car j'ai travaillé beaucoup dessus, de comprendre et de dégager quelque chose en fait, de ce texte. C'est vraiment, moi j'ai pris ça vraiment d'un côté scolaire et d'un côté où le texte, j'essayais de le ressentir, voir ce qui se dégageait en fait, de cette introduction, de cet incipit d'Alain Rob Grillet.
Et alors ça suffit ça? On n'a pas besoin d'avoir un contexte pour comprendre l'exercice? Elisabeth Rastoin.
Bah, je crois que ça suffit, j'allais dire, c'est déjà beaucoup même. Ce corpus en particulier, il est très dense. Et l'essentiel, ce n'est pas vraiment de tout savoir dans cette question de corpus, c'est d'être capable de tisser un fil conducteur entre tous les textes, donc de faire un travail de rapprochement et de synthèse. Donc il n'y a pas besoin de tout savoir, au contraire, il faut s'immerger dans ce qu'on nous donne et c'est déjà pas mal.
Thibault, tu connaissais tous les auteurs?
Non, aucun. Ça m'a pas posé de problème pour travailler sur le texte.
Et vous connaissiez, est-ce que quelqu'un connaissait un petit peu les auteurs ou pas?
Non, pas du tout.
Eh bien, je propose qu'on les connaisse mieux, peut-être en commençant par lire le premier texte qui était proposé. C'est un extrait de La vie de Marianne, un extrait assez long. Et donc, on va en lire simplement le premier paragraphe avec vous, Pauline Fleb, et ensuite on posera la question commune, celle qui était donc à l'examen de cette année-là. Pauline Fleb.
Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l'ai trouvée. Il y a 6 mois que j'achetais une maison de campagne à quelques lieues de Rennes qui, depuis 30 ans, a passé successivement entre les mains de 5 ou 6 personnes. J'ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement et, dans une armoire pratiquée dans l'enfoncement d'un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l'histoire qu'on va lire et le tout d'une écriture de femme. On me l'apporta, je le lus avec 2 de mes amis qui étaient chez moi et qui, depuis ce jour-là, n'ont cessé de me dire qu'il fallait le faire imprimer. Je le veux bien, d'autant plus que cette histoire n'intéresse personne. Nous voyons, par la date que nous avons trouvée à la fin du manuscrit, qu'il y a 40 ans qu'il est écrit. Nous avons changé le nom de deux personnes dont il y est parlé et qui sont mortes. Ce qui est dit d'elles est pourtant très indifférent. Mais n'importe, il est toujours mieux de supprimer leur nom. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ce petit préambule m'a paru nécessaire et je l'ai fait du mieux que j'ai pu, car je ne suis point auteur. Et jamais on n'imprimera de moi que cette vingtaine de guignes-ci. Passons maintenant à l'histoire. C'est une femme qui raconte sa vie. Nous ne savons qui elle était. C'est la vie de Marianne. C'est ainsi qu'elle se nomme elle-même au commencement de son histoire. Elle prend ensuite le titre de comtesse. Elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc. Et puis c'est tout.
Elisabeth Rastoin, la question commune, c'est dans quelle manière d'introduire les personnages, ces textes, donc celui-là plus les autres qu'on va lire, cherchent-ils à donner l'illusion du réel? Donc c'est ça le mot-clé, c'est l'illusion du réel?
C'est effectivement le mot-clé, et lorsque les élèves lisent cette histoire, cette affaire d'illusion de réel, ils ont déjà quelques petites pistes à saisir, et en particulier dans ce texte-là. Est-ce qu'on nous donne des indices sur les lieux, etc. Est-ce que le narrateur est là ou il n'est pas là, etc.
Alors, on va demander à Pierre. Pierre, tu as travaillé un petit peu sur le texte de Marivaux. Est-ce que d'ores et déjà, tu peux nous dire en quoi ce texte cherche à donner l'illusion du réel?
Il y a plusieurs moyens de l'auteur qui permettent de donner l'illusion du réel. Donc déjà, on sait que ce n'est pas le réel. C'est pas un réel parce que tous les romans, en fait, c'est de la fiction, sauf les autobiographies.
Et, donc, qui peuvent même être aussi un peu de la fiction, c'est là où ça devient compliqué.
Oui. Oui.
Et donc, on peut voir tous les repères spatio-temporels qu'il y a, donc, ce qui permet de visualiser la scène, et avec ses détails, en fait, ça fait comme si on était dans l'histoire. Donc avec il y a 6 mois par exemple, ou à quelques lieux de Rennes. Donc c'est un lieu qu'on connaît tous.
Donc donner des repères qui existent pour donner l'impression effectivement que c'est vraiment arrivé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Elisabeth Rastoin.
Oui, il y a peut-être également, on avait parlé du fait que c'était un roman à la première personne. Donc c'est peut-être une sorte de gage d'authenticité. On a également évoqué cette idée du manuscrit qui a été trouvé. Donc là, il y a bien quelque chose qui nous dit « Ah, c'est aussi un gage d'authenticité ».
Oui, parce qu'on se demande pourquoi cette espèce de complication, si ça n'était pas la réalité.
Exactement. Le principe même qu'on nous interpelle avec cette complication, avec ce mystère, fait qu'il y a création de l'illusion de réel.
Camille, toi aussi tu as travaillé sur ce texte de Marivaux.
Oui. Moi j'ai noté qu'on peut voir le champ lexical de la vue, notamment avec « j'ai vu », « regarde » ou « voit ». Et ça montre une description en détail du physique, qui est souligné aussi par une jolie femme. Donc c'est quelqu'un qui est rendu d'autant plus réel, car il est décrit et qu'on peut donc se l'imaginer. Et j'ai aussi noté qu'il y a des mots et des faits du quotidien que tout le monde connaît, comme Rennes, qui est une ville en France, et la petite vérole, qui est une maladie, qui montre le côté ordinaire du quotidien, ce qui permet d'inscrire le personnage dans la réalité.
C'est tout? C'est déjà
ouais,
bien.
C'est
ça
déjà
ça suffit
mal.
En fait pour la question
oui,
commune
crois,
qui est une petite question sur 4 points.
Rappelons-le.
Pauline Flepp, vous avez un rapport, vous, à Marivaux particulier?
Oui, mais alors pour revenir sur la question du manuscrit trouvé, je trouve justement que c'est un peu un piège dans ce texte. Et c'est pour ça qu'il est assez difficile, parce qu'à première vue, on pourrait être tenté de dire que cette histoire de manuscrit découvert dans une armoire contribue à l'illusion de réel. Mais en fait, au XVIIIe siècle, dans les fictions du XVIIIe, c'était un procédé très conventionnel, justement, pour afficher le caractère fictif d'un récit. Et en plus, je trouve que ce topos du manuscrit trouvé, il est traité avec beaucoup de désinvolture par Marivaux. Je pense au passage où il dit « Bon, passons maintenant à l'histoire ».
Justement, cette désinvolture, elle participe peut-être à l'effet de réel, non? Parce que moi, cette Marianne, elle n'est pas censée être un écrivain, donc le fait qu'elle écrive de manière désinvolte, peut-être
que
c'est ça aussi.
Mais là, c'est pas Marianne qui écrit, là, c'est le narrateur qui dit passons maintenant à l'histoire et puis c'est tout. Et on voit bien qu'il n'est pas dupe du procédé, qu'il sait que le lecteur n'en est pas dupe. Mais voilà, c'est une convention romanesque du 18e, c'est un peu bâclé, mais il fait le travail. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur l'effet de règle qui tient à la première personne.
Oui, mais je ne suis pas... Enfin,
Elisabeth Rastoin.
On est avec des élèves de première, et je ne suis pas sûre qu'ils ont conscience de cette convention qui existait au 18e siècle, en fait.
Donc, on ne leur demande pas de toute façon d'aller jusque-là. Deuxième texte qui va nous être lu par Pascaline Bonnet, c'est l'extrait des gommes. Donc tout à l'heure, on a entendu Alain Robbe-Grillet. Et voici donc cet extrait, Pascaline, dès que tu auras fini de boire un peu d'eau.
Dans la pénombre de la salle de café, le patron dispose les tables et les chaises, les cendriers, les siphons d'eau gazeuse. Il est 6 heures du matin. Il n'a pas besoin de voir clair, il ne sait même pas ce qu'il fait, il dort encore. De très anciennes lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions humaines. Chaque seconde marque un pur mouvement, un pas de côté, la chaise à 30 cm, 3 coups de torchon, demi-tour à droite, 2 pas en avant. Chaque seconde marque parfaite, égale, sans bavure. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Chaque seconde a sa place exacte. Bientôt, malheureusement, le temps ne sera plus le maître. Enveloppés de leur cerne d'erreurs et de doutes, les événements de cette journée, si minimes qu'ils puissent être, vont dans quelques instants commencer leur besogne. Entamer progressivement l'ordonnance idéale, introduire ça et là, sournoisement, une inversion, un décalage, une confusion, une courbure pour accomplir peu à peu leur œuvre. Un jour, au début de l'hiver, sans plan, sans direction, incompréhensible et monstrueux. Mais il est encore trop tôt. La porte de la rue vient à peine d'être déverrouillée. L'unique personnage présent en scène n'a pas encore recouvré son existence propre. Il est l'heure où les 12 chaises descendent doucement des tables de faux marbre où elles viennent de passer la nuit. Rien de plus. Un bras machinal remet en place le décor. Quand tout est prêt, la lumière s'allume.
Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous aidons les lycéens à préparer le bac de français. C'était le deuxième texte, celui d'Alain Robbe-Grillet. Antoine, tu as travaillé un petit peu sur ce texte-là.
Oui.
Est-ce que tu es étonné que ce texte soit mis en parallèle avec celui de Marivaux, ou est-ce qu'au contraire ça te semble logique ?
Bah, moi, je suis quand même un petit peu étonné parce que dans l'idée, ce n'est pas vraiment la même présentation. D'un côté, on arrive directement dans le vif de l'action, tandis que de l'autre, on a quand même l'auteur qui prévient que ce n'est pas son texte. C'est quand même assez étrange déjà qu'un auteur fasse ça, alors que le texte d'Alain Robbe-Grillet est plutôt dans les normes, on pourrait le dire. Mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'on peut les confronter, comme ça on peut montrer les différences qu'ils ont. On peut même essayer de chercher des points communs qu'ils auraient, ce qui est plutôt compliqué.
Alors quel point commun par exemple ?
Ben, on peut déjà mettre l'illusion du réel avec le caractère réaliste et le cadre spatio-temporel. En effet, c'est une salle plutôt commune en fait. C'est un café, il est tôt le matin, il n'y a pas beaucoup... Il y a quand même de la description, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas accablé sous une description lourde comme chez Balzac. On est dans une salle de café, comme je l'ai dit, avec notamment des chaises, des cendriers, des siphons d'eau gazeuse. Enfin, c'est un univers très simple, comme si quelque chose se réveillait, une journée banale en fait.
Mais qu'est-ce que ce serait un roman qui ne chercherait pas l'illusion du réel ?
Bah, ça serait peut-être un roman dans lequel, par exemple un roman policier, dans lequel on essaye de mettre quand même un petit peu de...
un petit peu d'étincelle dans les yeux du lecteur pour le faire accrocher jusqu'à la fin. Il y a également les textes qui peuvent nous faire réfléchir en nous montrant un univers autre que le nôtre.
Enfin, la science-fiction, par exemple, ou le fantastique.
Oui, voilà, exactement. Ça pourrait être ça. Donc là, on est vraiment... on est quand même étonné parce que c'est quand même assez simple. On se demande qu'est-ce qui va se passer, en fait. C'est une forme d'attente, un petit peu.
Thibaut, sur les gommes.
Moi, je pense pareil. Enfin, le texte est très simple. Ça présente un début de journée banal, une journée de travail.
Qu'est-ce qui te marque dans le style, par exemple, ou dans la façon dont est décrit ce café? Parce qu'il n'est pas décrit comme on le décrirait d'habitude, comme les écrivains le décrivent d'habitude.
L'illusion du réel qui m'a paru la plus frappante, c'était le fait qu'on suive tous les faits et gestes du personnage. Donc, comme si tous ces mouvements étaient calibrés à la seconde près, ce qui nous donne un peu une réalité mathématique de chaque journée qui commence de notre vie. L'aspect monotone aussi.
Elisabeth Rastoin, sur ce texte de Rob Grillier, qu'est-ce que vous auriez envie de dire et comment vous l'avez travaillé d'ailleurs avec eux?
On a fait des lectures et même plusieurs lectures. Alors, justement, pas les quatre à la suite, hein, parce que c'est quand même un corpus assez dense, les uns après les autres. Mais assez vite, justement, on s'est interrogé sur, finalement, en littérature, qu'est-ce que ça veut dire introduire du réel. Alors, on a essayé de faire émerger les idées des uns et des autres. Alors, il y en a qui ont dit que créer un effet de réel dans un roman, c'était se caler dans le quotidien, un peu comme chez Rob Grillier. Créer un effet de réel, c'est accumuler les détails, en particulier spatio-temporels, peut-être comme le fait Marivaux. On a dit aussi ce qui s'oppose à la science-fiction, donc là, ça reste quand même assez vaste. Et puis, on a évoqué la question du réalisme façon 19e. Donc, on a essayé de cerner déjà qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est vrai que chez Marivaux, on a bien une forme d'entrée dans le réel et d'illusion qui est complètement différente de celle de Rob Grillier et à laquelle, effectivement, moi, je suis plus sensible. Elle me touche plus.
Celle de Marivaux ou celle de Rob Grillier?
De Rob Grillier.
Oui, pourquoi?
D'abord parce que je trouve que j'ai envie de rentrer dans ce café, en fait. Je crois que c'est ça.
Alors que précisément, il n'y a pas de personnage qui nous y emmène. Chez Marivaux, on est directement dans un personnage, et c'est là où on entre peut-être dans l'histoire de la littérature et où on arrive au nouveau roman et ce que le nouveau roman signifie, en fait, dans l'histoire de la littérature. Mais vous avez plutôt envie de rentrer dans ce café alors qu'il n'y a pas de personnage, plutôt que de suivre, comme on le faisait traditionnellement, un personnage.
Exactement, j'ai envie de rentrer dans ce café, alors peut-être pour rencontrer le personnage aussi, mais on a envie de finalement construire cette histoire avec le romancier.
Troisième texte, c'est celui de Milan Kundera, donc là encore un écrivain très contemporain. C'est un texte que vous trouvez, alors on va peut-être le lire d'abord, puis après vous nous direz si vous le trouvez facile ou difficile, Elisabeth Rastoin.
Bien, c'est donc un extrait de L'immortalité de Milan Kundera. Le narrateur écrit un roman. Quand je me suis réveillée, il était déjà presque 8h30. J'imaginais Agnès. Comme moi, elle est allongée dans un grand lit. La moitié droite du lit est vide. Qui est le mari? Apparemment quelqu'un qui sort de bonne heure le samedi. C'est pourquoi elle est seule et, délicieusement, balance entre réveil et rêverie. Puis elle se lève. En face, sur un long pied, un téléviseur se dresse. Elle lance sa chemise qui vient recouvrir l'écran d'une blanche draperie. Pour la première fois, je la vois nue, Agnès, l'héroïne de mon roman. Elle se tient debout, près du lit, elle est jolie, et je ne peux pas la quitter des yeux. Enfin, comme si elle avait senti mon regard, elle s'enfuit dans la pièce voisine et s'habille. Qui est Agnès? De même qu'Ève est issue d'une côte d'Adam, de même que Vénus est née de l'écume, Agnès a surgi d'un geste de la dame sexagénaire que j'ai vu au bord de la piscine saluer de la main son maître nageur et dont les traits s'estompent déjà dans ma mémoire. Son geste a alors éveillé en moi une immense, une incompréhensible nostalgie et cette nostalgie a accouché du personnage auquel j'ai donné le nom d'Agnès.
C'est agréable hein, quand vos élèves vous applaudissent.
Bien. Ça serait bien si c'était tous les jours.
Comme ça, à la fin des cours. Pauline Flepp, sur Milan Kundera, Est-ce que c'est un auteur qui vous touche en particulier?
Ah oui, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et oui, bah, ce que je trouve intéressant avec ce texte, c'est que, enfin, à la façon dont est formulée la question commune, je pense que les attentes des correcteurs concernaient plutôt la question de la réception. Donc la question, dans leur manière d'introduire les personnages, ces textes cherchent-ils à donner l'illusion du règle, sous-entendu au lecteur? Et avec ce texte, on voit que la question, elle pourrait aussi se poser du point de vue de la production. Et est-ce que les romanciers, en fait, ne seraient pas les premiers à devoir, enfin, parfois, être les victimes consentantes de l'illusion de règle? Et on voit ici que la frontière entre le règle et le fictif, elle est extrêmement poreuse, puisque le romancier lui-même se met en scène en train d'imaginer son personnage.
Donc c'est assez difficile cet extrait, parce qu'on parle d'illusion de réel, mais en même temps, on parle d'un romancier qui est en train d'imaginer une fiction. Zoé, est-ce que tu as trouvé ça compliqué?
Oui, justement, on voit bien la frontière entre réel et irréel. Au début, il fait partie de sa vie, on a l'impression, il la décrit, elle fait des actions simples. Alors que vers la fin, elle va prendre une figure biblique, voire même divine. Et dans ce cas, elle n'est que pure création. Il n'y a plus ce côté réel et ordinaire qu'elle avait au début.
Donc on est presque dans quelque chose de philosophique, le rapport entre réalité et fiction.
Bah oui, pourquoi pas. On se pose la question et on se demande si le narrateur, lui, ne s'est pas perdu quelque part.
Pourquoi perdu?
Bah parce que au début, y a une certaine proximité entre lui et Agnès. Et après, on voit que en fait, cette femme lui échappe.
Oui, moi je trouve que le texte est intéressant parce que on est vraiment dans la phase de la naissance de la création.
La naissance de la création.
Bah oui, on a cette créature au sens vraiment d'une sculpture qui est en train de naître en termes de fiction, parce qu'elle n'existe pas. Hein. Et c'est intéressant, je trouve.
Une question dans le public des lycéens ici présents.
Ah, en fait, c'est pas vraiment une question.
Ah, une remarque, mais, c'est bien aussi.
Parce que j'ai travaillé aussi sur ce texte, donc c'est vrai que je rejoins un peu le caractère de... Pauline.
Ouais. Ton prénom d'ailleurs c'est comment?
Timothée.
Timothée.
Timothée. Et en fait, je trouve en effet qu'il y a vraiment une la frontière entre le réel et la fiction est pas du tout est très floue puisque finalement la question rhétorique qui est Agnès de l'auteur, le narrateur s'adresse directement au lecteur et donc permet finalement de faire entrer le lecteur dans le texte afin qu'il imagine avec lui le personnage de son roman. Ça nous permet un certain réalisme, mais la fiction reste puisque finalement il trouve cette femme Agnès belle, et alors que plus loin dans le texte il nous dit que c'est une qu'il l'a imaginé à partir d'une sexagénaire. Mmh. Donc c'est vraiment c'est un
ça
gros contraste.
Ça te semble fou.
C'est un gros contraste.
Merci beaucoup. Alors, un petit corrigé rapide avant de passer au récit d'invention sur cette question commune. Quel serait le plan, Elisabeth Rastoin, qui fonctionnerait à peu près?
Oui, alors une fois encore, il faut faire un travail de synthèse qui n'est pas simple avec tous ces textes. Je pense qu'il aurait été opportun de rapprocher le texte de Rob Grier et de Kundera parce qu'il y a une proximité introduite entre le narrateur et le lecteur grâce à l'utilisation du présent et justement de la première personne du singulier. Et on a vu que chez Rob Grier, le personnage était sur le point d'émerger. Et j'aurais rapproché le texte de Marivaux et celui de Claudel parce qu'on a justement cette...
Oui, on n'a pas parlé du quatrième texte de Philippe Claudel parce qu'il est un peu long et qu'on n'a pas eu le temps de le lire.
On a une accumulation de repères spatio-temporels qui, là aussi, sont au service du réalisme de l'extrait. Donc ces deux textes-là auraient été rapprochés.
Je rappelle aux auditeurs qu'on peut trouver ces textes, si vous voulez vous y replonger, sur Internet. Et puis nous, on essaiera aussi de vous l'indiquer sur le site Internet. Allez, on va voir maintenant ce qui se passe du côté du récit d'invention. « Et c'est en lieu et place de notre chronique habituelle en compagnie des revues. Nous avons demandé à Pierre et Camille de s'essayer donc à cet exercice difficile qu'est l'écriture d'invention. Il s'agissait de trouver une suite au texte d'Alain Robbe-Grillet que nous avons entendu tout à l'heure. Je vous lis le sujet. En veillant à respecter l'atmosphère installée par ce début, vous imaginerez une suite consacrée à l'arrivée d'un nouveau personnage dans le café. Vous vous inspirerez des procédés qui figurent dans le texte. Qui veut commencer ? Camille, allez, on y va.
Derrière la vitre, la silhouette d'une femme de dos. C'est Agnès. Elle est grande, élancée. Sa main d'un geste aérien replace une mèche de cheveux dans la mousse de son chignon. Puis elle se tourne. On dirait qu'elle a pleuré. Il la regarde, devine que c'est par elle que les événements de cette journée vont suivre un décalage, une courbure nouvelle. 37. Le temps s'est suspendu. Elle entre dans le café et l'écho mat de son pas fait trembler le silence. Chaises, tables, verres, la sereine atmosphère qui régnait à l'instant absorbe les vibrations de sa présence. 37.2, dit-elle. Je suis enceinte. Il ne bouge pas et tout s'écroule autour de lui.
Elisabeth Raspin, j'ai l'impression que vous avez introduit une difficulté supplémentaire.
Oui, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais comme on a travaillé sur un temps assez bref sur ces écritures d'invention, l'idée c'était, en plus de ce qui était formulé dans la consigne, de faire entrer dans le texte un des personnages des autres textes du corpus. Camille a choisi de faire entrer Agnès. Et je crois que Pierre va nous faire entrer quelqu'un d'autre.
Mais d'abord, sur celui qu'on vient d'entendre, quel commentaire la professeure que vous êtes ferait ? Et
alors,
est-ce que ça conviendrait pour le bac ?
Tout à fait. Déjà, elle a su s'appuyer sur le texte source. Donc ça, c'est une bonne chose, avec l'utilisation du présent. Et puis, cet espace calibré au millimètre près, comme le disait tout à l'heure Thibault. Et cette reprise des chiffres aussi. Qui va rebondir sur ce 37.2 qui annonce la femme enceinte.
Oui, parce qu'il faut, et c'est dans l'intitulé, s'inspirer des procédés qui figurent dans le texte. Donc
exactement.
Il faut réellement faire un plagiat du style nouveau roman de Robbe-Grillet.
Alors faire plagiat, je ne sais pas, parce que de toute façon c'est un prolongement, donc c'est une création personnelle, mais il faut être capable de montrer qu'on a bien lu le texte qui était là juste avant. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de partir dans tous les sens. Donc c'est un prolongement et c'est un harmonieux équilibre entre moi, ce que je sais faire, mon talent, mon imagination et ce qui m'a été proposé au départ.
Est-ce que c'est assez long ? En termes
non, c'est pas, là c'est trop court, mais là c'était difficile comme sujet parce que justement le texte de Robbe-Grillet est quand même très, très épuré, très dépouillé, donc sur un travail de 3 heures, il faut de la ressource je pense, hein. Mais ce qu'a fait Camille est court parce qu'on a travaillé sur un temps assez bref et c'était volontairement qu'on a fait... cet exercice assez court.
Camille, ça a été difficile. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Est-ce que tu as fait un plan ? Est-ce que tu es partie comme ça, en suivant le fil de la plume ?
Bah, j'ai pas vraiment fait de plan. J'ai lu le texte et j'ai écrit ce qui me venait à la tête. J'ai écrit. Puis au fur et à mesure, en relisant, je changeais quelques mots, quelques groupes de mots. Puis à la fin, j'ai trouvé que... c'était plutôt pas mal, du coup je me suis arrêtée.
Je t'ai arrêtée et t'es parti.
Voilà.
Et bien on va voir ce que Pierre a fait alors.
Quand tout est prêt, la lumière s'allume. Là, caché sous une table, un jeune enfant, vêtu pauvrement et portant un béret jaunâtre, dort. Le patron s'approche. Il retient son souffle et son tablier fait un bruit de papier froissé. La lumière devient de plus en plus vive. Le soleil se lève. D'un coup, Destina, en tenue de procureur, apparaît sur le pas de la porte, suivi de 2 policiers. Il demande au patron de s'écarter du garçon. Les 2 policiers, mutiques et déterminés, se dirigent vers l'enfant.
Alors Destina, il faut dire que c'est le personnage du texte de
Philippe
Claudel.
Que nous n'avons pas lu. Je précise aussi, par honnêteté intellectuelle, que autant pour le texte de Pierre et de Camille, on les a relus ensemble, on a retravaillé des choses. Et ça a permis de revenir sur cette idée qu'en littérature, il faut souvent plus enlever que rajouter. Et les élèves ont tendance à croire l'inverse. Il faut que ce soit long, il faut que ce soit... etc. Non, c'est important que chaque mot a sa place. Et dans un travail comme celui-là, on s'exerce de façon très aiguisée à trouver le mot juste au bon endroit et avec le minimum syndical, si je puis dire.
Et alors, le minimum en termes de taille quand même, parce que j'imagine que c'est important, ce serait quoi? C'est deux pages, une page, c'est quoi?
Deux pages. À peu près deux pages. C'est ce qu'on attend d'un élève en classe de troisième. De première, que dis-je.
Pauline Flepp, vous qui êtes la plus imaginative autour de nous, le récit d'invention, ça vous connaît. Comment est-ce que vous auriez fait, vous?
En effet, ce qui est assez difficile dans cet exercice, je trouve, c'est d'adopter le stick de robe grillée qui est très dépouillé. Voilà. Et je sais que l'année où j'ai fait mon stage d'agrégation et où j'avais une classe de seconde, je voyais bien que quand ils faisaient l'exercice d'invention, ils avaient tendance justement à surécrire et à prendre une écriture très, très démodée, très 19e. Donc je pense que c'est pour ça que c'est très difficile d'écrire comme robe grillée.
Oui.
Oui, et c'est difficile d'en écrire deux pages, du coup.
Oui.
C'est pas simple. C'est pour ça que c'est pas un sujet facile du tout.
Toujours la compagnie des auteurs avec Pauline Flepp, Elisabeth Rastoin et sa classe de première S du lycée Jeanne d'Arc de Colombes. Et nous allons parler dans cette dernière partie de l'exercice difficile de la dissertation, difficile en soi, mais aussi difficile pour ce sujet-là, en particulier avec un corpus, vous l'avez dit, Elisabeth Rastoin, qui est très fourni. C'est vrai que déjà, rien que de lire les quatre textes, ça prend beaucoup de ressources, et d'arriver à saisir l'enjeu dans chacun des textes, c'est quand même déjà beaucoup de temps passé sur les quatre heures.
Oui, c'est du temps. Alors, on rappelle rapidement que sur la question de corpus, il ne faut pas aller au-delà de une heure de travail, et ça inclut effectivement la lecture des textes.
Oui, donc c'est très, 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 très rapide quand même.
Oui, la dissertation, c'est effectivement un exercice difficile, sauf que quand on est immergé dedans, c'est un véritable, c'est un défi intellectuel qui est très stimulant. Et effectivement, il vaut mieux privilégier un plan en deux parties qui va tenir à peu près la route que d'essayer de s'éparpiller dans tous les sens.
Il faut faire simple quand même, de manière générale.
Tout à fait. Il faut faire simple. Il ne faut pas chercher à aller au-delà de ce qu'on sait faire. C'est important de, une fois qu'on a lu le sujet, répertorier les exemples qu'on pourrait utiliser et les exemples qui nous touchent au cœur, surtout. Et puis, on se lance ensuite.
Alors Antoine, tu as ces quatre textes, tu les lis, tu décides que tu vas faire la dissertation. Comment tu fais ?
Bien, moi déjà, j'essaie de reprendre, d'après ma question de corpus, les spécificités de chacun des textes pour essayer de répondre à ma question. C'est-à-dire que, comme je les ai déjà regroupés pour les confronter ou les associer, j'arrive à dégager ce que je pourrais appeler une image du personnage, ce qui veut nous faire dire, en fait. Là, si l'auteur veut nous faire attraper le personnage pour poursuivre l'histoire, ou si c'est un personnage, par exemple, secondaire, où on a très peu de descriptions, qui vise aussi à faire avancer l'histoire, mais sans qu'on s'attache à lui et qu'on soit là juste pour l'histoire, en fait.
Donc là, tu ne parles pas tant en général que sur ce sujet dissertation, qui est donc, rappelons-le, un roman doit-il chercher à faire oublier au lecteur que ses personnages sont fictifs.
Mm-hmm. C'est pas un sujet simple. Et on reviendra peut-être dans un rapide corrigé sur certaines choses, notamment sur le fait que des personnages de romans, par essence, ils sont fictifs. Alors déjà, la question fait problème. On se dit, pourquoi se la poser, finalement ? Est-ce que ce sujet nous demande de nous interroger sur la fonction du roman ? Mais c'est pas vraiment dans le cadre de l'objet d'étude, puisque l'objet d'étude en classe de première, c'est le personnage de roman, et pas juste le roman. Et il va falloir tourner autour de la notion de réalité du personnage. Comment est-ce qu'on arrive à lui donner de la substance et à faire en sorte qu'il soit bien de notre monde? Est-ce que c'est possible ou pas, finalement?
Mais vous pensez que c'est quand même des problématiques que les lycéens de première se sont réellement posées dans leur grande majorité? Enfin, je veux dire, c'est quand même déjà un rapport à ce que c'est que la fiction qui est quand même assez,
assez difficile.
Approfondie.
Je crois que les... Non, très sincèrement, je pense que les lycéens ne se sont pas du tout posé cette question.
Antoine, tu t'étais déjà interrogé là-dessus?
Bah, pas tellement, vu que je ne suis pas un très grand lecteur. Moi, je vais surtout sur quelque chose que je connais, que je pense maîtriser, comme le commentaire. Alors, la dissertation, souvent, les questions me refroidissent. Mais je pense que sur au moins une question comme celle-là, j'aurais cherché à comprendre pourquoi on nous pose cette question, et j'aurais essayé de citer beaucoup les textes qu'on a fait dans notre corpus, en fait, puisque je n'ai pas une très grande culture littéraire à côté.
Tu es en première S, comme vous tous d'ailleurs. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que du coup, la littérature n'est peut-être pas votre priorité.
Dans l'esprit de beaucoup, je pense que oui. On prépare surtout les matières scientifiques, mais après, je connais beaucoup d'amis à moi qui aiment lire et qui aiment apprendre de nouvelles choses à travers la lecture, les science-fiction, les nouveaux romans comme avec Rome Grillet. Je pense que ça dépend de l'élève, en fait, surtout.
Oui, je crois que c'est un peu un faux problème. En toute série, qu'on soit en série scientifique, ES ou L, le français a tout à fait sa place. Et dans l'ensemble, il travaille avec beaucoup de sérieux. Alors, ils prétendent qu'ils ne lisent pas, qu'ils lisent peu, mais en fait... On s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui émergent quand on est en cours, donc il y a largement de quoi bâtir une dissertation.
Mais les sujets qui sont donnés en S et en ES sont-ils différents?
Oui, ils sont quand
très,
même,
très différents.
Me semble-t-il, plus abordables. Celui-là est effectivement très littéraire.
Antoine, est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur la dissertation et sur ce que tu aurais fait?
Moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été beaucoup de parler du genre, en fait, par rapport au roman. C'est-à-dire que pour moi, le personnage, s'il est fictif et qu'on veut le montrer, c'est pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, dans un roman policier, on pourrait accrocher le lecteur avec un personnage qui pourrait avoir des traits très spécifiques, très embellis. Alors que, par exemple, si on veut montrer une histoire plus simple ou quelque chose qui fait réfléchir sur la vie, on utiliserait plutôt un personnage réaliste qui pourrait nous y amener, tout simplement.
C'est déjà assez avancé comme réflexion.
Oui, moi, je trouve que c'est pas mal. Il ne faut pas perdre le personnage de vue, ça, c'est sûr.
Zoé, et puis ensuite Pierre.
Je pense que pour ce sujet-là, je pense qu'il devient réel pour le lecteur quand vraiment on peut arriver à s'identifier au personnage. Et soit des personnages qui peuvent être répulsifs. Par exemple, dans le portrait de Dorian Gray, où on voit que c'est un homme tout à fait monstrueux, en fait, mais on est quand même impressionné et intéressé par sa vie. Il y a des personnages qui sont trop élevés au rang de la perfection, et là, on se détache tout à fait d'eux. Et du coup, je pense que le lecteur arrive moins à s'identifier.
Pierre ?
Moi, par rapport à cette problématique, en fait, j'aurais rapproché le mouvement naturaliste, surtout, en fait, qui consiste à mettre un personnage dans une situation avec une hérédité assez lourde et ensuite à le faire évoluer, en fait. Mais c'est pas l'auteur qui influe directement, c'est plutôt le personnage, en fait, qui va créer sa propre histoire. Donc par exemple, dans Au bonheur des dames de Zola, le personnage principal, c'est une ouvrière, je crois. Et en fait, elle travaille dans un grand magasin et ses parents ont un petit magasin juste à côté. Et on voit, on la voit évoluer dans son espace, en fait, en fonction de ce qu'elle a vécu.
Et donc, on oublie qu'elle est un personnage de fiction, ça pourrait presque être du journalisme, c'est ça, ça? Parce qu'on sait que Zola, justement, se documentait beaucoup, c'est ça?
En fait, c'est peut-être avant d'écrire, il imaginait, en fait, le personnage et ce qu'elle aurait pu vivre avant, justement, l'histoire qu'il écrit. Et on peut voir aussi le réel, en fait, parce que c'est sur les grands magasins. Et ça s'est vraiment passé comme ça, en fait. Il raconte un peu ce qu'il a vécu, lui, à travers un personnage.
Elisabeth Rastoin.
Écoutez, je suis complètement en phase avec mes élèves. Et c'est intéressant parce que moi, le plan que j'aurais imaginé pour une telle dissertation s'appuierait sur ce que vous avez dit les uns et les autres, autant Pierre que Zoé. Moi, dans un premier temps, d'abord repris cette idée que la question est un peu surprenante. Est-ce qu'un roman doit...
Ce qui est surprenant, c'est aussi ce « doit-il », cette espèce de devoir, nécessité. Comme si un écrivain était obligé, pour être écrivain, d'écrire d'une certaine manière. C'est un peu étrange. Peut-être que dans le sujet, il y avait aussi ça à relever.
Oui, mais là encore, je pense que moi, j'aurais souhaité faire... j'aurais essayé, si j'avais été à la place des élèves, de faire tourner davantage le sujet autour de la réalité du personnage, qui, non, il n'existe pas, il est bien fictif, mais ce qui est réel, c'est quand même le lien que l'on tisse avec lui. Et ce lien, c'est de l'émotion, c'est de la répulsion, comme le disait Zoé, ou de l'identification, mais ce lien, il est vivant et il appartient à la réalité, il n'est pas fictif, mais le personnage le reste.
La question, c'est aussi, si le personnage n'est absolument pas réaliste, qu'est-ce que ça produit en termes de littérature ? C'est-à-dire, est-ce qu'un roman, c'est forcément quelque chose qui reproduit ou cherche à reproduire le réel, ou est-ce que ça peut être totalement, totalement autre chose ?
Moi, je pense que dans cette volonté de reproduire le réel en multipliant les précisions, les détails, les descriptions, ça ne produit qu'une illusion de réel. Et c'est ce que nous dit Maupassant. Non, ça reste quand même de la fiction et on n'est pas dupe.
Pauline Flepp, est-ce que vous cherchez, vous, quand vous écrivez, à faire oublier au lecteur que vos personnages sont fictifs ?
Oui, dans une certaine mesure. Enfin, j'essaye qu'il puisse y avoir un investissement affectif de la part du lecteur. Et du coup, je vais glisser des effets de règle. Enfin, là, dans mon dernier roman, il se passe, le narrateur est romancier, et j'ai mis en scène des écrivains qui existent vraiment, comme Houellebecq. Des écrivains célèbres pour créer des effets de règle. Mais après, on peut aussi dire que ces effets de règle, quelque part, on peut aussi les redouter quand on est écrivain, au sens où je pense qu'on a toujours peur que nos proches ou des gens moins proches nous reconnaissent dans le livre.
Ah oui, là, c'est trop réel.
Voilà, et là, ça va pas.
Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs, une spéciale aujourd'hui consacrée à la préparation du bac de français. Nous sommes avec Pauline Flepp, Elisabeth Rastoin et sa classe de première du lycée Jeanne d'Arc de Colombes, une classe de première S. On pourrait terminer cette émission, Elisabeth Rastoin, en revenant un petit peu en arrière sur l'année qui s'est écoulée et la manière dont vous avez préparé vos élèves, en particulier à ce corpus du roman. Comment ça se passe, une année de préparation au bac de français, et à quoi les élèves doivent-ils être attentifs toute l'année des messages que vous voulez leur faire passer ?
D'abord, on a fait une belle année, ça c'est certain.
Pourquoi une belle année ? Qu'est-ce qui est une belle année ?
Parce que depuis tout à l'heure, on parle du personnage et moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré tous les jours des personnages et d'avoir été très, très bien avec eux.
Vos élèves, c'est des personnages bien réels, eux.
Oui, ils sont bien réels, mais ils ont aussi leur part de mystère et c'est ça qui fait toute la beauté du métier.
Donc en fait, pour se préparer, il faut essayer de percer le mystère des autres lycéens assis à côté de soi. C'est une façon de faire de la littérature.
Oui, je crois. Et surtout, là, je parle à tous les jeunes qui sont autour de moi. Effectivement, on aborde des textes littéraires qui ne sont pas toujours évidents, mais d'abord, on les regarde avec nos yeux d'enfant, si je puis dire, et on essaie de les regarder avec une certaine fraîcheur et d'en tirer quelque chose pour nous-mêmes, ne pas juste les lire parce qu'ils sont inscrits au patrimoine de notre littérature. On essaie de se construire quelque chose pour soi et de se construire une vision personnelle. Alors, pour revenir à l'ensemble de notre parcours, en tout cas dans le domaine du roman, l'objet d'étude, c'est le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours. Ça signifie que c'est bien quelqu'un qu'on met au centre de notre travail. Et c'est une démarche intéressante parce que de mettre le personnage au centre de la réflexion, ça permet une approche vivante des choses. Un personnage, il évolue, il est pétri d'émotions, il est modelé sur une époque.
C'est vous qui avez fait ce choix-là ?
Oui.
De centrer sur le personnage.
C'est le programme. L'intitulé du programme, c'est de mettre le personnage en avant. Alors, ça n'empêche pas qu'on travaille sur la question du texte au proprement dit, de la narration.
Vous avez une marge de manœuvre quand même importante.
Tout à fait. Mais c'est vrai que, pour prendre un exemple, on a travaillé sur l'étranger. c'est quand même nettement plus vivant et percutant et touchant de s'attarder sur Meursault et ce qui le conduit à cet acte gratuit qu'est le meurtre que de juste travailler l'écriture de Camus, qui est passionnante, mais quand on est en première, c'est peut-être plus compliqué. Alors que le personnage et la vision qu'il nous offre de la vie est quand même très intéressante.
Thibaut, et puis après une question dans le public.
Alors, j'ai une question, pas trop en rapport avec la dissertation, mais une question à poser à Pauline Flepp. Ce serait comment on écrit en soi un livre et dans quel état d'esprit je me questionnais sur ça.
Pauline Flepp. Est-ce que ça s'écrit comme une dissertation de première?
Ah non, pas du tout.
Ce serait plus long.
Bah, heureusement. moi, souvent, je pars du personnage, justement. Donc, c'est complètement en raccord avec le thème d'aujourd'hui. Enfin, le plus important pour moi, c'est vraiment d'avoir un personnage auquel je crois, dans une certaine mesure. Et après, je construis une intrigue. Mais j'ai presque d'abord une figure de personnage, en premier. Donc, en l'occurrence, le personnage d'Esther.
Ça répond à ta question, oui. Thibaut. Dans le public, ton prénom, Maxime, je crois.
Oui, c'est Maxime. Alors moi, j'aurais aimé savoir, c'est une question pour Pauline, donc comment Pauline a préparé personnellement son bac de français et si elle avait des conseils à nous donner pour la réussite.
Ah, Pauline est très sollicitée.
Bah, déjà, j'ai toujours beaucoup lu, donc forcément, j'avais beaucoup d'exemples pour la dissertation, par exemple. Et après, un peu comme tout le monde, hein, en réguisant mes cours. Mais je vous dis, je ne suis pas vraiment un modèle. Hein, j'étais pas une très bonne élève au lycée.
C'est après comme tous les écrivains, j'ai l'impression.
Je suis devenue plus sérieuse.
Camille.
Moi, c'est aussi une question pour Pauline. Et je me demandais si les personnages que vous créez, est-ce que vous les imaginez entièrement ou est-ce que c'est des caractéristiques qui viennent de telle personne que vous rencontrez ou c'est de la pure imagination?
Ah non, je pense que c'est pas de la pure imagination. Enfin, forcément, y a forcément un peu de moi. Et après, évidemment, je vais extrapoler, en faire des personnages de fiction. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est assez délicat quand on écrit un livre. C'est qu'il y a forcément une dimension personnelle, pas forcément dans les faits, mais plus dans la personnalité de l'héroïne, des choses comme ça. Donc, évidemment, c'est une mise à nu dans une certaine mesure.
Elisabeth Rastoin, pour terminer, sur la question des objets d'études que vous étudiez au fur et à mesure de l'année.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que vous allez étudier d'une manière ou d'une autre ces objets d'études? Ils sont au nombre de...
Alors, il y en a en classe de première S, en tout cas, il y en a 4. On travaille sur le théâtre. Ça, on a démarré ça en début d'année. Là, donc, le personnage de roman est... ça, c'est venu en seconde position. Et puis, la poésie et l'argumentation. Voilà les 4 objets d'études sur lesquels on travaille en première.
Et comment se préparent les derniers moments? Parce que là, on est à quelques semaines, à peu près 3-4 semaines.
Alors déjà, on reprend un certain nombre de sujets qui ont été faits les années précédentes. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et qui sont souvent proches. On se met un petit peu dans le...
Comme par exemple, les questions qui reviennent. D'ailleurs, est-ce que c'est souvent le roman qui revient ou c'est plutôt la
tourne.
Poésie? Non, ça tourne de manière régulière.
Complètement. Non, ça tourne. Y a tout type de dissertation. Je peux vous donner peut-être 2 ou 3 sujets. Dans le roman, peut-on dire que les scènes de la vie sociale nous en apprennent autant sur les personnages que leur portrait physique et psychologique? Donc on a bien la question du personnage qui est au cœur de la réflexion.
Oui. C'est plus facile, ça, que le sujet qu'on a traité aujourd'hui?
En tout cas, la question est longue, ça, c'est sûr. mais oui, ça permet de mettre le personnage en société. Oui, je crois que c'est plus abordable, me semble-t-il. Un sujet qu'on a vu cette année, le roman doit-il nécessairement faire de ces personnages des êtres extraordinaires? Et là, on n'a plus à se poser trop la question de la fiction ou de la réalité. Et je trouve que ce sujet est peut-être un peu plus abordable.
Il y a toujours cette idée du doit-on, forcément... qui est en fait toujours une réflexion sur ce que c'est que le roman et ce que c'est que d'écrire un roman, non ?
Oui, puis peut-être que ça permet de s'obliger à se construire un plan de travail et à essayer d'en aborder toutes les facettes, oui. Mm-hmm.
Un dernier sujet, un dernier exemple ?
Alors un dernier sujet, le but d'une dernière page de roman est-il uniquement de donner un dénouement à l'histoire ? Où là on va plus se pencher sur le texte et peut-être un peu moins sur les personnages.
Alors, c'est le cas pour vous?
Pas forcément. Il y a des portes qui restent très ouvertes. Mais là, Je suis tout à coup en train de penser à Candide. Est-ce que c'est un dénouement ? Il faut cultiver notre jardin. En tout cas, c'est une belle philosophie.
Eh bien, le dénouement de la Compagnie des auteurs, c'est comme chaque jour, un peu de poésie. Holy, holy, holy. De la poésie avec Jacques Bonafé, qui, toute la semaine, nous lit des textes en rapport avec les animaux.
Bonjour, on continue avec le bestiaire. Allez, pas commode pour commencer. Les osios, un beau poème de Norge. À mes bains, lit tortorelle, ce sont dix osios qui recoulent por l'orel, diront Roncibio. Tous au lit de la Purnelle, ce sont dix osios, amoureux du bec, de l'aile, du flanc, du mousio. Rouquetou, rouquetoucou, tourtourou, torelle, à mes bains, l'iroucoulou de la tortorelle. On dirou quand on la scoute au soleil d'août, que le bonheur, que la mort vont dorer tosor. Zosio de Norge. Et voici le casoar de Jean-Pierre Verheghen. Si un casoar vous casse les couilles avec son histoire de casque colo qu'il aurait, croit-il, égaré à Zanzibar dans un studio ou dans un bar à griots, il ne sait plus trop, et de toute façon, il est rentré bredouille, dites-lui que vous n'avez rien à voir avec les avatars de son chapeau. Pas de quoi, en effet, monter au créneau pour savoir s'il s'agissait d'un truc à plumes ou d'un shako, voire d'un borsalino made in là-bas. C'est comme ça, c'est comme l'histoire de Madame Poupard, la femelle, pardon, la femme, de Monsieur Tourteau, qui n'arrive pas à dormir à point clos parce que le bébé coquillage que lui a fait, le jour de leur mariage, son tourtereau de mari, ne cesse de brailler fort et haut, jour et nuit. Dites-vous bien que vous n'avez rien à voir avec le dodo de son moutard, rien, zéro fois zéro, nullard sur toute la ligne, vous n'allez tout de même pas vouloir résoudre toutes les affaires de faux frères, pseudo-amis et autres imbroglios de la langue et de la grammaire, sans quoi, à terme ou illico, vous allez, mon coco, vous retrouver à l'hosto psychiatrique où le docteur lexique de service n'hésitera pas à vous faire passer son célèbre test linguistique en vous demandant quelle différence il y a entre un ovipare et un ovovivipare. Si c'est le cas, répondez-lui texto qu'un ovipare, c'est un ovovivipare qui ne bégaye pas. Croyez-moi, votre toubib n'en reviendra pas. Et voici, pour rester dans les territoires d'Outre-Quiévra, en Belgique, un texte d'Achille Chavet, vous savez, l'auteur de l'Évangile selon Saint-Truc, dénommé Dictée. Dictée, mais c'est le portrait de la libellule, qui est peut-être un personnage mondain dans son poème. La libellule est un mammifère. Elle se nourrit d'épongées et de morceaux de bois. La libellule fait l'amour sur le toit de la trigonométrie. C'est une amie de l'agriculture. Elle dévore les aigles, les poètes pieux et tous les objets brillants. Souvent, elle se suicide sans mise en scène sur l'injecteur d'une comtesse après une crise de mysticisme. Respecter son nid, protéger ses petits qui jouent à la banque russe dans les cafés malfamés de la périphérie. Petite comptine de Pierre Coran, girafon, girafon a le coulon, le coulour, girafon rêve qu'il court, girafon a le coulon, le coulour, girafon compte les jours, girafon a le coulon n'est plus lourd, aujourd'hui girafon court. Dire lire, comptine pour ne pas se mater de Pierre Coran, c'est chez Casterman.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
C'était Jacques Bonafé qui lisait des poèmes ayant pour point commun de parler des animaux. Ça t'a plu, Antoine ?
Bah oui, oui, c'était assez marrant. Il y a des choses qu'on ne s'y attendait pas. Il parlait très vite aussi.
Ah, parle trop vite, on va lui dire, Jacques Bonafé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Pauline Flet, dont je rappelle son livre Le roman d'Esther, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est son deuxième, le premier intitulé Un sourire particulier était paru chez Maximilo en 2008. Elisabeth Rastoin, enseignante donc au lycée Jeanne d'Arc de Colombes, et toute sa classe était venue aujourd'hui dans ce studio, une classe dont certains seront en concert le 25 juin prochain à l'avant-scène de Colombes à 20h pour des reprises de groupes célèbres. Venez nombreux. Et puis de toute façon, on se retrouve demain pour un quatrième et dernier corpus à étudier, celui relatif au texte d'argumentation. Au revoir à tous.
Au revoir.
Cette émission était réalisée par Laurence Millet à la console. Il y avait Myriam, Guillaume. Un grand merci à Sophie de Lombarès, Pascaline Bonnet, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault, sans qui cette émission, vous le savez, ne pourrait avoir lieu. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Et si vous aimez cette émission, partagez-la. Dans un instant, Les Sciences, Sylvain Kahn, Planète Terre. Il révise lui aussi le bac de géographie.